Bonjour et bienvenue sur Communautaire, la communauté des initiatives saines et éco-responsables. Je suis Pauline Ebel, entrepreneur à impact. Avec Communautaire, je vous propose de rencontrer ensemble des acteurs engagés pour la planète et pour la santé et de vous faire découvrir toutes les initiatives menées à titre entrepreneurial, individuel ou bénévole, visant à produire ou à consommer plus durablement. Belle écoute! L'épisode vous est proposé en partenariat avec Ecosia, le moteur de recherche éco-responsable qui reverse 100% des bénéfices à l'Action pour le climat, dont 80% pour financer des projets de reforestation situés dans des zones critiques de biodiversité. Pourquoi vous parlez d'Ecosia ? Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Dans ce podcast, on parle d'initiatives qui contribuent à un monde meilleur. Donc si vous cherchez une idée de geste green toute simple à mettre en place et qui a un impact concret, pensez à Ecosia. Toutes les 45 recherches, c'est un arbre qui est planté. Allez simplement sur Ecosia, ecosia.org, et mettez-le en moteur de recherche favori ou installez-le sur votre smartphone. Et en plus, c'est gratuit. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Communautaire. Aujourd'hui, direction 3, bastion historique du textile français, à la découverte de Flair Bodysuits créé par Clémence Wurst. Bonjour Clémence, tu vas bien ?
Bonjour Pauline, très bien et toi ?
Très bien, merci. Flair Bodysuits, ce sont des bodys prêts à porter pour femmes, 100% made in France, à la fois simple, élégant et sexy, mais aussi éthique. On va donc parler de fabrication made in France et de ses contraintes, de l'importance du choix des matières, d'éco-labels et de la valorisation des savoir-faire locaux. Allez Clémence, peux-tu te présenter s'il te plaît ?
Oui, avec plaisir. Donc moi, c'est Clémence Wurst. Donc j'ai créé Flair Bodysuits il y a 4 ans. Donc effectivement, Flair, c'est une marque qui est dédiée aux body prêts à porter pour femmes. Ils sont tous donc fabriqués en France à Troyes, qui est, comme tu l'as si bien dit, le bastion historique du textile français, notamment pour tout ce qui est bonneterie et maille. Et alors, made in France, pas par hasard, parce que justement, je suis originaire de cette ville. Et que j'avais de la famille qui était déjà dans le textile. Donc pour moi, c'est plus qu'une marque, c'est une histoire d'héritage, de transmission et de valorisation effectivement de nos savoir-faire locaux. Et le body, parce que c'est une pièce que je trouve absolument exceptionnelle qui m'a été transmise par ma maman, mais qui était un peu oubliée, là qui revient vachement sur le devant de la scène. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de leur visiter un peu sous toutes ces coutures et de proposer des bodys aux coupes à la fois intemporelles, chic, mais toujours avec un petit détail qui les différencie, en faisant effectivement très attention aux matières. Et voilà, et on est vendu principalement en direct sur notre site internet.
D'accord, donc toi, c'était une évidence depuis toute petite que tu allais travailler dans l'univers de l'industrie textile ?
Non, pas du tout. D'ailleurs, je n'ai pas du tout fait d'études dans ce sens-là, puisque j'ai fait des études de business international. Et j'ai bossé, avant de créer Flair, en fait, j'ai bossé pendant 3 ans chez Uber en marketing digital, donc absolument aucun rapport avec le schmilblick. Mais effectivement, en fait, ma maman, du coup, c'est de son côté, son grand-père et son papa, du coup, avaient un atelier de confection. Donc, elle a toujours eu cette sensibilité au travail bien fait en termes de finition, mais aussi en termes de matière. Donc, elle nous a vachement éduqués toujours à avoir un œil assez esthétique et critique par rapport au textile. Donc, c'est toujours une sensibilité que j'ai eue. Et puis, comme 99% des nanas, je pense, j'adore évidemment les fringues. Et donc j'y suis venue un peu naturellement, mais sur le tard. C'était pas du tout quelque chose auquel je pensais depuis toute petite.
D'accord. Et le choix du body, en l'occurrence, c'était vraiment l'article qui te paraissait le plus évident de ton ancrage familial.
Ouais, effectivement. En fait, donc pour te raconter un peu l'anecdote, c'est que donc je bossais chez Uber, qui était du coup une boîte très digitale. C'est une expérience que j'ai adorée, mais ce qui me manque, le côté un peu manuel et créatif me manquait dans mon travail. Parce que c'était très connecté, très digital, quoi. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours de couture pas forcément pour en faire vraiment, mais pour mieux comprendre la confection d'un vêtement. Parce que comme j'adorais les fringues, j'avais envie quand même, tu vois, de comprendre, de vraiment savoir bien repérer les belles fringues bien faites. Et en fait, j'ai adoré ce côté justement. Enfin, j'ai voulu vraiment lier ce côté un produit tangible, une création avec effectivement ce côté digital que je connaissais. Donc, d'où le fait de créer une marque du coup sur Internet. Et le body. En fait, comme j'avais pas vraiment de compétences dans ce domaine de la création textile, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me concentre sur un produit pour, tu vois, monter en compétence sur ce produit, vraiment bien le comprendre, vraiment bien le maîtriser et du coup vraiment bien le faire. Et effectivement, là, pour le coup, le body, ça m'est apparu comme une évidence parce que, comme je te disais dans l'introduction, je suis très proche de ma maman et notamment de son style que j'adore. Et elle, mettant beaucoup de body, elle m'a pas mal...
influencée,
ouais. Voilà, exactement, par cette pièce que je trouvais géniale, mais j'en trouvais pas pour moi dans mon budget et dans mon style aussi qui était un peu plus jeune, et donc je me suis dit que ça me ferait marrer de revisiter cette pièce en plus, et puis de manière un peu plus profonde j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de cette pièce que j'ai trouvée hyper intéressante et qui m'a encore plus attachée au body, qui est, pour te la faire courte, mais c'est vraiment une belle histoire. En gros, c'est un vêtement qui a été créé au XVIIIe siècle par un Français, mais je dis un parce que c'était un homme, donc c'est assez rigolo, parce que on ne fait des bodys que pour femmes, hein. Mm-hmm. Et qui s'appelait Jules Léotard, et qui en fait est un grand gymnaste français, et qui a voulu dessiner en fait une pièce qui le laisse libre de ses mouvements, tu vois, tout en étant très aérien, etc. Donc il a créé le body, qui s'est vite retrouvé dans le fitness notamment, très vite dans la lingerie aussi, et qui a très vite en fait été le symbole un peu de l'émancipation de la femme. Parce que c'est une pièce qui est près du corps, très féminine, et c'est, je te le disais un peu en aparté tout à l'heure, en fait c'est assez marrant parce que c'est l'ancêtre du maillot de bain une pièce, puisque à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les femmes commencent à plus dévoiler leur corps, tu vois, à s'émanciper un peu plus, elles se dénudent en premier sur les plages, et c'est là où on voit les premiers bodys en tricot apparaître. Et ensuite, il va être un peu oublié parce que, dans les années 90, ça va être vraiment son heure de gloire, notamment, tu vois, avec American Apparel, hein, je pense qu'on a toutes connu leur body. Et en fait, après, ça s'essouffle un peu parce que le body classique, c'est le body seconde peau, et pour avoir une seconde peau il faut forcément de l'élastane, et j'imagine qu'on aura pas mal l'occasion d'en reparler, mais du coup t'avais peu de matière à l'époque qui contenait de l'élastane, enfin c'était vraiment pas varié, donc à part avoir ton body noir coupe très classique, c'était compliqué. Et là, depuis quelques temps, t'as plein de matières différentes. Tu vois, nous, on utilise notamment du velours, du coton, de la viscose toujours, évidemment. Mais voilà, on a un terrain de jeu, en fait, beaucoup plus vaste qui nous permet de proposer des collections beaucoup plus variées.
Et quand tu as décidé donc de créer Flair, quels étaient les premiers pas ? C'est-à-dire que tu as commencé à dessiner un body, ou d'abord tu allais regarder s'il y avait des ateliers de confection autour de toi ? Comment ça a démarré, l'aventure ?
Ouais. Alors, je m'en souviens très très bien. En fait, j'en avais un peu marre de mon job, et donc j'avais en plus ce besoin déjà entrepreneurial, de créer. Donc je suis un peu partie de là, et ensuite, donc voilà, on a parlé du cheminement jusqu'au body, et du coup j'annonce à mon entreprise que voilà, que je vais partir, et dans le train, j'allais passer le week-end chez mes parents à Troyes, et dans le train Paris Troyes, je m'étais acheté un petit carnet, et c'est là où j'ai dessiné mes premiers bodys, et donc j'ai commencé comme ça mes premiers bodys, qui étaient d'ailleurs des variantes un peu de haut que j'aimais beaucoup dans le dressing de ma maman. Et voilà, donc j'ai dessiné mes premiers bodys. Une fois que j'avais mes premiers bodys, je me suis dit qu'il fallait que, bah, du coup, ils se soient en vrai et plus que des dessins. Donc là, j'ai approché l'atelier de confection avec lequel on travaille toujours à trois, qui est en fait un, ce qui m'a vachement facilité en fait la vie, c'est un atelier ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle en tout cas complètement intégré, c'est-à-dire que il va du studio de modélisme à ton produit fini en passant par le tricotage de matière. Donc vraiment j'avais un interlocuteur pour tout, c'est-à-dire que c'est là où j'avais ma modéliste, c'est là où je sourçais mes matières et c'est là où je faisais confectionner mes bodys. Donc ça a été génial, ça m'a permis de lancer très rapidement mon entreprise, parce que du coup je suis partie en avril de chez Hubert et la première commercialisation du body de Flair a commencé le 2 octobre.
Ouais, donc très rapide.
Donc très rapide. Et donc j'ai que fait en fait, si tu veux, mes protos. Et ensuite, je me suis dit, voilà, je vais moduler mon risque, c'est-à-dire que je sais pas si ça va marcher. Aujourd'hui, il y a les campagnes de crowdfunding qui est quand même un super outil pour tester un peu ton produit, voir s'il trouve preneur. Et donc, j'avais fait mes protos, je suis allée voir le photographe que je suivais déjà en perso, j'adorais son travail, je l'ai contacté. Je me souviens très bien du jour où il me rappelle pour me dire « Ok, on va faire ce premier shoot ensemble ». Donc, j'étais ravie parce que je me disais « Je vais faire un truc sur Internet, mais du coup, c'est hyper important que j'ai un univers de marque, tu vois, hyper précis. » Ça, c'est quelque chose, un domaine que je maîtrisais quand même un peu. Et je me suis dit « Ça va être très, très important qu'on ressente la qualité du produit dans la qualité de l'image de la marque. » Donc, je voulais vraiment mettre des moyens dans la réalisation de mes protos et dans le shooting photo. Et donc voilà, ensuite j'ai trouvé la mannequin, on a fait le shooting avec ses protos et ensuite j'ai fait une campagne de crowdfunding, donc de pré-vente.
Sur Ulule,
exactement, pendant un mois. Et notre objectif en un mois, c'était de vendre 100 bodies. Et au final, les 100 bodies sont partis en 2h30. Donc c'était plutôt
positif, quoi.
Et ensuite, du coup, je lançais la production. Donc c'était vraiment zéro risque, tu vois. C'était un investissement de départ de 3 000 euros
entre ouais, un shooting, le mannequin et la première les premiers body, quoi.
Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment pas grand chose et ça te permet voilà de tester un peu l'appétence et de voir si tu trouves ta cliente, quoi.
Et donc l'atelier, c'est pas un atelier qui est donc en propre, mais tu utilises un atelier qui est déjà existant.
Oui, exactement. On est cliente d'un atelier, donc qui est en fait notre fournisseur, qui est aujourd'hui un peu plus comme un partenaire. On est hyper proche d'eux. Il y a un lien un peu, si tu veux. Alors aujourd'hui, on en a un deuxième aussi, mais avec celui-ci, il y a un peu un lien émotionnel parce qu'ils nous ont fait confiance dès le départ. C'est un risque pour eux aussi. Moi, quand je suis allée les voir, ils m'ont dit c'est très bien toutes les petites marques qui se lancent, mais en fait. C'est horrible, mais t'en as quand même 90% qui restent un peu sur le carreau. Et pendant ce temps-là, nous, on a développé des protos, on a mis nos modélistes à dispo pour ces gens-là. Et en fait, il n'y a jamais de collections qui suivent derrière. Donc nous, on perd du temps et de l'argent. Donc c'était aussi un investissement de leur part, tu vois, de croire en nous et de nous accepter, sachant que c'est quand même un assez gros atelier, assez reconnu. Ils ont des très gros clients, enfin des grands noms de la couture française en clients, donc... eux, si tu veux, n'avaient pas forcément d'intérêt au début. C'était plus parce que voilà, il y a eu une affinité, ils ont cru au projet. Donc voilà, donc c'est un partenaire, effectivement. Ce n'est pas en propre, mais c'est un atelier avec lequel on travaille de manière très proche.
Et ce choix de l'atelier, il s'est fait parce que tu avais envie de travailler dans ta région d'origine ou parce que l'atelier, il a une connaissance particulière, un savoir-faire particulier dans la fabrication du body, parce que le body c'est peut-être pas aussi simple que fabriquer juste un t-shirt, ou est-ce que c'est un mélange de ces deux éléments-là?
Alors non, bah en fait c'est un mélange de ces deux, parce qu'en gros donc trois, on l'a dit, bastion historique du textile français, mais pas du textile dans son ensemble, spécialisé dans la bonneterie et la maille. Et ce qui veut dire que mon atelier, par exemple, notre atelier, ils font partie des... Je crois qu'ils sont les seuls d'ailleurs en France à avoir ce type de machine qu'on appelle des machines circulaires et qui vont te tricoter donc des panneaux en fait de tissu qui vont sortir en tube. Donc ça va être le corps de ton body, c'est très bien pour les collants aussi par exemple. Et ça va te permettre d'avoir un corps de body qui n'a pas de couture. Donc tu vois en termes de confort, ouais. C'est hyper intéressant et ça va te permettre aussi de maîtriser ton point de tricotage, donc ce qui va pour le coup te permettre d'avoir des matières en tricoter sans élastane parce que tu vas pouvoir un peu jouer avec ton point de tricot pour rendre ta matière plus ou moins élastique.
D'accord.
Donc voilà, donc un vrai savoir-faire et une vraie compétence particulièrement pour ce qu'on voulait faire, les bodys. Mais, et en plus, évidemment, l'idée, c'était de faire à trois, qui est, voilà, mon point d'ancrage, ma ville de naissance. Hein, donc, c'était très important pour moi. Donc là, ça liait vraiment bien les deux.
Et alors, en termes de choix de matière, tu parlais tout à l'heure de velours, de coton, de viscose. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et comprendre comment ce choix s'est fait pour la spécificité précise du body, et puis après, comment s'est fait le choix des matières pour voilà, produire le plus, on va dire, responsable possible quand c'est possible, parce qu'il y a aussi des propriétés spécifiques au body, on peut peut-être pas le fabriquer avec n'importe quoi pour garder ce confort d'utilisation.
Mmh. Ouais, exactement. Bah, alors, donc, le body, effectivement, nécessite d'avoir une matière qui va être élastique pour avoir ce côté seconde peau qui est la raison pour laquelle on s'est spécialisé dans le body parce que moi, je trouve vraiment que c'est un vêtement incroyable parce qu'il te permet d'avoir une allure hyper féminine, hyper élégante, à la fois aussi hyper sexy, hyper glamour, tout en étant hyper confort parce que si tu fais bien ton travail, c'est un vêtement que tu sens pas vraiment. Et surtout, il va te suivre dans tes mouvements. T'as pas peur, tu vois, d'être débraillé à chaque fois que tu fais un geste ou etc. À chaque fois que tu bouges.
Oui, on imagine en fait le maillot de bain, une pièce qui est en fait un peu le reflet de ce que c'est qu'un body. Évidemment, il y a un côté élastique aussi pour suivre les mouvements, parce que sinon, voilà. En fait, si ça tire quand on se baisse, ça n'a pas de sens, quoi.
Ouais, exactement. Ça n'a pas de sens. Et puis, du coup, ça s'adapterait pas à la forme, à la morphologie de chaque femme, tu vois. Il faut vraiment que ça épouse tes formes, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est très important. Un point, je pense, important à dire pour être vraiment en toute transparence et parce que c'est important pour moi, voilà. Donc, je viens pas du tout de l'univers du textile. C'est un métier que j'apprends un peu tous les jours. Et du coup, j'ai pas vraiment, tu vois, de. Enfin, là, j'en ai plus évidemment aujourd'hui qu'il y a 4 ans, mais j'ai quand même une connaissance et une compétence en termes de matière qui reste quand même hyper limitée aujourd'hui. Parce qu'on choisit aussi ces combats et que nous aujourd'hui on a un vrai combat sur le made in France et sur la valorisation de savoir-faire locaux etc. Et on a plus de travail à faire sur les matières qu'on utilise mais effectivement avec toujours cette barrière du côté élastique de la matière donc le panel un peu qu'on utilise ça va être effectivement du velours donc qui est un velours de coton. Donc dans lequel il y a de l'élastane aussi forcément, mais qui est composé à 80% de coton et qui est tricoté et teint directement dans notre atelier à Troyes.
Oui, donc toutes les étapes de fabrication sont faites à Troyes en fait. C'est important
ouais,
aussi de dire que ça n'a pas voyagé. Voilà, exactement. Soit en France, soit à l'étranger quoi.
Ouais. Exactement en termes d'impact environnemental. Nous en fait, si tu veux, comme je te disais, comme je pense que en tout cas, à notre stade, et quand tu es une jeune marque, tu peux pas jouer sur tous les tableaux. Tu es obligée de choisir tes combats. Donc, tu as des marques qui décident de pas faire produire en France et d'avoir un sourcing voilà, vraiment hyper optimisé. Et d'autres comme nous qui privilégient plutôt le côté confection français. Et donc, effectivement, nous, on n'a pratiquement pas de transport, tu vois. Donc, on a notre atelier de confection où toutes nos matières, notre coton élastane, notre velours de coton élastane, une partie de la viscose qu'on utilise, les 100% coton et la laine sont directement tricotées et teintes dans notre atelier de confection. Donc là, autant te dire que tu as juste zéro transport. Nos étiquettes sont faites à Troyes, notre packaging aussi, enfin... Tu vois, tu as vraiment un maillage en gros troyen et ensuite, ça part chez notre logisticien dans la région parisienne. Et ensuite, la plupart de nos clientes aujourd'hui sont quand même parisiennes, tu vois. Donc, on maîtrise quand même vachement notre impact environnemental de ce point de vue-là en étant vraiment hyper, hyper, hyper local, que ce soit en termes de confection, tissu, distribution. Après, évidemment, on utilise d'autres matières. On utilise de la dentelle, par exemple. Ça, on se source dans la région lyonnaise. Et pour notre viscose côtelée, Liva Eco, qui est donc un label de viscose écologique, entre guillemets. En
oui,
gros,
elle est éco-certifiée, c'est ça ?
Ouais, voilà, exactement, parce qu'elle est issue. On essaie en fait de faire au mieux avec nos contraintes. Et aujourd'hui, la viscose, ça reste très franchement une matière absolument dingue pour les bodys, parce que c'est hyper confortable, c'est hyper doux au toucher, c'est hyper élastique, donc ça résiste vachement bien dans le temps aussi.
La viscose est souvent associée à une seconde soie, en fait.
Enfin, ouais, exactement. Ouais. Exactement, ouais. Et du coup, voilà, sauf que, en gros, pour la faire courte et vulgariser un peu le truc, pour faire de la viscose, t'es obligé de couper des arbres. Donc, c'est pas très bien. Et donc, du coup, la viscose Liva Eco, en fait, pour chaque arbre coupé, t'en replantes un. Voilà, t'essaies de maîtriser un peu l'impact que tu as de ce point de vue-là, quoi. Et donc, nous, c'est cette viscose-là qu'on utilise. Et celle-ci, elle est tricotée et teinte dans le nord de la France.
Oui, parce que la viscose, c'est pas une matière qui est naturelle.
Non.
Mais elle n'est pas artificielle non plus. En fait, elle est synthétique. Oui. Ça veut dire qu'elle utilise du bois, comme tu disais. Je crois que c'est la pulpe de bois, mais qui,
ouais,
après,
exactement,
va subir un traitement chimique.
Exactement.
Et en fait, l'éco-certification, elle permet de savoir que...
Limite,
donc, voilà, ça limite effectivement l'impact environnemental, parce que la forêt, elle est gérée de manière durable. Et qu'en fait, elle s'assure aussi que la quantité d'eau et de produits chimiques soit utilisée de manière raisonnable. Et puis,
exactement,
comme tu disais, il y a un arbre qui est planté derrière. Donc, quelque part, tu limites un petit peu l'impact que ça pourrait avoir.
Et puis, il faut savoir aussi qu'au-delà des labels, etc., tu as aussi au niveau des pays, tu as des restrictions, des normes. Et en France, tu vois, c'est limité. Pour toutes tes émissions, etc., tout ça est contrôlé. Donc, pour toutes les matières qui sont fabriquées en France, c'est aussi quelque chose qui est de toute façon limité et contrôlé, quoi.
Et après, on parlait de la soie, qui est en l'occurrence une matière qui est naturelle, parce qu'elle est fabriquée avec le verre à soie.
Ouais.
Mais en fait, les verres à soie, ils sont ébouillantés pour récolter la soie.
Oui,
et c'est ça, pour faire... Donc, un gramme de soie, c'est 15 verres à soie. Donc, pour faire un sari, c'est 50 000 créatures qui sont tuées. Donc, bon, l'un dans l'autre, c'est vrai que du coup, il n'y a peut-être pas de produits chimiques ou d'arbres qui sont tués, mais c'est quand même des animaux aussi. Donc, bon, on peut aussi trouver ses limites dans chaque process, quoi.
Je pense qu'il faut être hyper... Voilà, il faut rester hyper humble. Et moi, j'estime qu'à partir du moment où, de toute façon, tu as une marque de fringues, l'idée, c'est de faire au mieux que tu peux. Mais la personne qui dira « Nous, on est parfait sur tous les points », en fait, c'est faux. C'est impossible. À partir du moment où, de toute façon, tu produis quelque chose, que ce soit une fringue ou autre, t'as forcément un impact sur ton environnement. L'idée, c'est pas demain de plus rien produire, c'est plutôt effectivement d'avoir une approche assez raisonnée et d'essayer de faire les choses du mieux qu'on peut, quoi.
Oui, et alors avoir un impact positif, c'est pas que l'impact sur l'environnement, c'est aussi un impact social. Donc déjà, l'éco-certification, elle garantit que le travail soit fait dans les bonnes conditions, c'est-à-dire pas de travail forcé et des salaires qui sont décents. Et puis en l'occurrence, pour vous, c'est le fait de s'assurer de valoriser le savoir-faire local et tout est produit à trois. Et c'est aussi un impact positif, en fait, pour la région.
Oui, exactement. Mais tu vois, c'est marrant parce que notre région a été quand même pas mal, hyper impactée. Tu vois, typiquement, mon grand-père a perdu son atelier dans les années 50, par justement tous ses savoir-faire et toutes ses productions qui sont parties en Europe et ailleurs, en tout cas hors de France. Donc, ça a été un peu une région malmenée, tu vois, de ce point de vue-là, parce qu'on avait un peu tout misé là-dessus. Enfin, on a le champagne aussi un peu, mais... Et là, ça revient et du coup, tu sens, tu vois, qu'il y a une nouvelle belle dynamique, que la région revit, ça crée des emplois, ça valorise aussi effectivement toutes ces régions, donc c'est important. Et comme tu le disais, nous, on, du coup, 3 Paris, c'est 1h20 en train, donc on y va hyper souvent. On connaît toutes les couturières qui bossent pour nous, on connaît hyper bien nos modélistes, on a vraiment une relation hyper proche avec eux, et on sait les conditions dans lesquelles ils travaillent. Ça, c'est très très important de savoir que les personnes qui créent tes produits sont hyper bien traités, épanouis dans leur job. Enfin, c'est vraiment très important, surtout quand on sait en plus que tu vois, t'as pas mal de marques qui souhaiteraient revenir en France, mais le problème, c'est que on a laissé filer plein de savoir-faire qu'on n'a pas entretenu. Aujourd'hui, si tu veux être couturière en France, en fait, t'as plus vraiment de formation. Tu vois, tous ces métiers-là, on les a complètement un peu... Enfin, c'est une filière qu'on a un peu abandonnée et qu'on en paye le prix fort aujourd'hui. Mais c'est pour ça que, par exemple, deux autres marques d'origine troyenne, qui sont Petit Bateau et Lacoste, ont créé leur école interne de couturière, parce qu'en fait, il n'y en a plus, sinon.
Oui, donc il y a quand même une question de savoir-faire, quoi.
Mm. Oui, exactement. Donc je pense que oui, le faire redorer un peu l'image de ces métiers-là, relocaliser en France, ça va vraiment participer aussi à un renouveau et surtout à sauvegarder nos savoir-faire. Il n'y a plus les laisser comme ça tomber, parce que c'est une vraie richesse de patrimoine aussi.
Quel est ton plus gros challenge du moment ?
Mon plus gros challenge du moment, c'est d'absorber notre croissance. Parce qu'on, alors c'est un problème de riche, mais là on a vraiment une très forte accélération et voilà, c'est de continuer en fait à faire les choses bien, mais en plus grand. Et ça, c'est un vrai challenge.
Comment on se déploie justement, parce que le body, on peut peut-être pas le décliner à l'infini, dans le sens où vous avez une gamme qui est focalisée sur un produit. On peut peut-être pas le décliner en toutes les couleurs, ça a peut-être pas de sens d'un point de vue de l'image que vous voulez véhiculer. Donc en fait, quels sont les axes de croissance pour Flair Bodysuit?
Alors déjà, le premier point, c'est que je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à revisiter dans le body.
D'accord.
Donc je pense qu'on en est qu'au début et pour le coup, moi, je crois... dur comme fer qu'on peut le revisiter et que, enfin, qu'on a encore vraiment un très long chemin. Donc ça, c'est une première chose, que ce soit en termes de coupe, de style, de matière utilisée, voilà. Mais effectivement, un de nos axes très importants de croissance, ça va être sur la diversification un peu de nos marchés et de nos canaux de distribution. Où là, ça va être intéressant pour nous.
Donc, plutôt travailler avec des enseignes, avec des boutiques physiques pour inciter la découverte de la marque.
Ouais, il y a ça et il y a aller là, tu vois, une de nos priorités pour l'année à venir, c'est le marché américain qu'on a commencé à tester là depuis la rentrée parce qu'on était en pop-up chez Saks, donc il y a une grande enseigne
à New York, non ?
À New York, ouais. Qui a très bien marché. Du coup, on a signé avec une agent qui va nous représenter à New York et Los Angeles. Donc, deux marchés qui, je pense, sont très intéressants pour nous. Et effectivement, développer aussi plus un mix en termes de distribution parce qu'on se rend compte que essayer des bodies, c'est quand même... ça change tout et c'est hyper important. Donc ouais, ça, le physique fait aussi un peu partie de tout ça.
Oui, surtout que c'est une matière un peu particulière, c'est une pièce un peu spéciale qui est, tu le disais en préambule, qui est pas, enfin que tu voudrais pas associer à la lingerie, mais plutôt en prêt-à-porter. Mais néanmoins, il y a un côté confort qu'on se doit d'essayer peut-être aussi,
ouais,
avant
exactement.
De l'adopter.
Et c'est un côté. En plus, on a vraiment réalisé ça parce qu'on a fait un pop-up en juillet à Paris. Et ça faisait longtemps, Covid, etc., qu'on n'en avait pas fait. Et j'ai re-ressenti ce côté, cette joie absolument incroyable de voir les clientes qui sortent de la cabine d'essayage. Et tu sais, tu les vois se regarder dans le miroir et tu sens qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent belles. Elles ont le sourire parce qu'elles te disent « Ah, mais je m'attendais ». T'en as qui vont te dire « Je m'attendais pas à ça, je suis venue essayer parce que je suis votre marque depuis longtemps, j'étais hyper curieuse, mais bon, les bodys, et en fait, j'adore les matières, je me sens hyper bien maintenue et je me sens hyper belle dedans et hyper féminine. » Et donc, tu vois, je trouve que le body a vraiment ce côté hyper magique de « Non, c'est pas fait pour moi, j'aime pas trop », à quand tu l'essayes, où t'es là, mais c'est absolument incroyable comment j'ai pu vivre sans. T'as vraiment ce côté, et on l'a vraiment ressenti pendant ces 15 jours de pop-up, et c'était génial. Donc oui, je pense que c'est important d'essayer, et c'est important de voir les matières aussi, de toucher, tu vois, parce qu'on a quand même un body. Nous, notre prix moyen, il est autour des 130 euros, donc c'est quand même un budget. Alors qu'on essaie de rendre plus accessible, on en parlera après, mais et du coup je pense que oui, quand tu mets ce budget dans une pièce, bah, c'est normal d'avoir envie de quand même voir la matière, l'essayer, vraiment sentir et toucher la qualité qu'on défend, quoi.
Tout à fait. Et le body, c'est une matière qui enfin c'est un produit qui reste durable, dans le sens il dure dans le temps. Et on peut le recycler ensuite. Qu'est-ce qu'il devient en fin de vie ?
Alors, tout dépend évidemment comme il est fait, comme tout. Mais je crois que nous, on les fait d'une bonne qualité qui leur permettent de durer dans le temps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé il y a un peu plus d'un an notre service de seconde main qui s'appelle Flair Réincarnation. Mm-hmm. Et donc, en fait, on propose à nos clientes de récupérer les bodys qu'elles mettent plus forcément, parce que, pour le coup, moi, je suis un peu contre les discours moralisateurs de « Ok, du coup, il ne faut plus s'acheter de fringues, il faut garder très longtemps ses fringues, etc. » Enfin, ça va, on reste... Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien avoir souvent des nouvelles pièces, changer, me faire plaisir. Enfin, c'est quelque chose qui est important. Mais l'idée, c'est de trouver des moyens de le faire de manière responsable, entre guillemets. Donc, on leur propose de nous les renvoyer contre un bon d'achat chez nous, qui leur permet, voilà, de renouveler un peu leur garde-robe. Et nous, on a un atelier, pour le coup, spécifique avec lequel on travaille pour ce projet-là, qui reçoit ces bodys donc de seconde main, qui les reconditionne s'il y a besoin, et on les remet en vente tous les mois, tous les premiers mercredis de chaque mois. On a un drop de bodys seconde main, mm-hmm, qui part en général hyper vite, et qui nous permet du coup effectivement de donner une deuxième vie à nos bodys, parce qu'on les fait bien, parce qu'on fait de la qualité, et donc ils peuvent avoir plusieurs vies et durer dans le temps. Et ça permet, tu vois, on a pas mal du coup de clientes étudiantes qui adorent nos bodys, mais qui ne pouvaient pas se permettre de se les offrir, et qui du coup les achètent en seconde main et sont ravies. Et je pense que du coup, t'éduques aussi les gens à la qualité, à reconnaître la qualité, à reconnaître le produit bien fait, tout en les rendant plus accessibles.
Oui, parce que seconde main, ça ne veut pas dire que le produit il est usé. Non. Simplement, la personne s'en est peut-être lassée, tout simplement.
Exactement.
Et puis, de toute façon, ils sont reconditionnés. Ça veut dire qu'ils sont vendus dans un état qui est considéré comme... alors, peut-être pas neuf, mais en tout cas...
En bon état.
En bon état.
Exactement.
Et donc...
Et puis, en plus, tu vois, la manière dont on est... Enfin, parce que c'est ça aussi, nous, on fait que des pièces qui sont... hyper intemporel, assez classique, tout en ayant toujours un twist pour sortir du lot. Mais c'est des pièces que tu peux garder, enfin qui vont pas se démoder.
Ouais.
Et des matières qui vont vachement durer dans le temps. Donc ça participe aussi, tu vois, un body que tu t'achètes aujourd'hui et que tu remettras dans 5 ans, bah ça compte, tu vois. Ça veut dire que c'est une pièce que tu vas garder longtemps, donc son impact il est forcément aussi diminué. Donc, on a vraiment à cœur de proposer toujours, en général, on dit éthique et chic, parce qu'on veut des bodys, voilà, qui soient intemporels, avec un petit twist, mais toujours, toujours relativement classique, entre guillemets.
Oui, ça évite de renouveler trop souvent les collections et puis du coup de gaspiller. En l'occurrence, vous, les seules capsules que vous faites, c'est pendant l'été, parce que du coup, vous déclinez la version body en maillot de bain avec juste une matière qui est plus adaptée au bain.
Exactement, exactement. Alors après, on sort aussi. En fait, on a désormais nos intemporels, donc des bodys qui sont vraiment nos iconiques, donc que tu vas retrouver un peu. Alors après, j'aime bien dire que c'est un peu comme les bons légumes et fruits. Il y a des saisons pour nos bodys aussi. Donc t'as nos iconiques d'été et nos iconiques d'hiver, donc que tu pourras retrouver à chaque saison, mais pas hors saison. Et ensuite, on fait aussi des nouveautés par saison, tu vois. On sort quand même des nouveaux modèles, parce que l'idée, et pour la cliente et pour nous, c'est quand même aussi un peu de s'amuser, et donc voilà, de créer aussi des nouvelles pièces et d'avoir quand même des nouveautés à proposer.
Quels sont les projets du moment pour Flair ?
Eh bien, donc, il y a ce développement aux États-Unis dont je te parlais. Il y a également la diversification un peu de nos canaux de distribution. Donc, on commence à travailler avec des petites concept stores qu'on aime bien ou d'autres marques. Par exemple, en janvier, tu pourras nous retrouver dans les boutiques Le Pantalon. Donc, parce qu'on a des produits hyper complémentaires, on a la même cible, donc on va faire un pop-up pendant un mois chez eux. Donc voilà, le faire de manière, tu vois, un peu rigolote, et surtout essayer de le faire de façon toujours un peu complémentaire avec d'autres marques. Un autre projet qui me tient à cœur aussi, c'est que je vais m'associer.
Super.
Parce que j'étais toute seule, j'étais vraiment à 100% toute seule en tant qu'associée sur Flair jusqu'alors. Et là, Charlène me rejoint dans l'aventure, donc je suis ravie. Parce que je pense aussi que là, j'ai plus envie, tu sais, de porter un peu tout ce poids sur mes épaules. Et puis, je trouve que pour faire grandir, pour créer, je trouve ça pas mal de... J'ai aimé créer... toute seule, parce que du coup, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire, donc j'ai pas eu à faire de compromis. Mais aujourd'hui que la boîte grandit, je trouve que voilà, c'est beaucoup plus enrichissant et tu grandis mieux à plusieurs.
Ouais, t'es peut-être à la fin d'un cycle et du coup, un partenariat, une association va te permettre peut-être aussi d'envisager un déploiement.
Ouais, exactement.
Ouais, plus grand, ok.
Exactement. Voilà. Et plein de nouveautés aussi en termes de développement produit là qu'on est en train d'étudier, enfin toujours dans le body hein, bien sûr. Donc ouais, des chouettes projets pour 2022, des nouveaux marchés, nouveaux canaux de distribution, mon associé et effectivement des petites nouveautés produits assez sympas.
Et on parlait de matière tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une réflexion qui sera envisagée sur l'optimisation permanente du choix des matières pour réduire l'impact environnemental au-delà des éco-certifications qui sont déjà un premier grand pas? Je crois savoir que la caserne, donc, qui est le premier incubateur européen de mode durable qui va ouvrir à Paris, dans une ancienne caserne de pompiers dans le 10e arrondissement, va permettre d'avoir un accès à un showroom de matière durable, puisque 70% de l'impact écologique d'un vêtement est lié à la matière. Est-ce que ça, pour Flair, c'est une source de renouvellement et de maîtrise de l'impact carbone?
Ouais, bien sûr. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on est à la caserne, justement.
D'accord, super.
On fait partie de la première promo.
D'accord, donc qui a déjà ouvert.
Ouais, qui a ouvert en juin. Et nos voisins sont Nona Source, donc ce fameux showroom de matières premières responsables, ouais. En fait, qui sont des chutes, qui sont des matières déjà produites pour des grandes maisons qui n'utilisent plus. Donc c'est évidemment, c'est une de nos priorités, hein, très clairement. C'est d'être aussi de devenir entre guillemets un peu irréprochable là-dessus, et parce que ça nous tient de toute façon évidemment hyper à cœur. Donc c'est de s'entourer de gens effectivement qui maîtrisent bien le sujet pour aller sourcer des matières qui seront plus responsables. Alors après, ce sera peut-être pas des matières qui sont faites en France, mais pour le coup, je pense que c'est un compromis qu'on sera prête à faire. Notre confection restera toujours à 3, mais si tu vois demain on tombe sur une matière qui nous permet effectivement de remplacer l'élastane ou d'avoir des bodys toujours aussi qualitatifs, mais de manière plus écologique, on le fera évidemment, et c'est une priorité. Ouais.
Très bien. Et quelle est ta vision pour Flair? Jusqu'où tu aimerais l'emmener?
C'est une bonne question. Très loin, évidemment. Non, j'aimerais vraiment que Flair devienne la référence pour justement, si tu cherches un body, tu sais que tu vas chez Flair. Mmh. Ça, c'est vraiment ma vision. Et ensuite, en termes de développement et de production, j'aimerais vraiment rester en local. Donc, si demain, tu vois, typiquement, on a un très gros marché aux États-Unis, ouvrir aussi un atelier de prod là-bas pour à chaque fois, en fait, produire au plus près de tes
consommateurs.
Clients.
Ouais. Ok.
Exactement.
Et ta vision à toi d'un monde meilleur, qu'est-ce que ce serait ?
Déjà plus humain. Je trouve qu'on y revient un peu, mais je trouve que plus humain, un peu pas moins digital, tu vois, parce que c'est... Mais avoir... Là, tu vois, on fait le podcast, on l'enregistre à distance. Je trouve ça très bien, parce que ça nous permet, voilà, de connecter, enfin, quand t'es pas dans la même ville et tout. Mais je trouve qu'on est allé un peu trop loin dans ce côté, tu vois, visio, etc. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux et rien de tel, quand même, de rencontrer les gens et de partager un café. Donc voilà, revenir un peu à ces valeurs-là, redorer les lettres de tous les métiers manuels et créatifs. Je pense que c'est hyper important aussi, le remettre un peu au centre de l'éducation. Et effectivement, maîtriser plus notre impact, que tout ce qui est voiture électrique, etc., devienne plus la norme. Mais je pense qu'on est dans la bonne direction.
Et tes gestes green à toi, du quotidien, qu'est-ce que tu as déjà pu mettre en place et que tu aimerais nous partager ?
Alors, mes deux petits gestes, j'étais une adepte du coton, mais je suis passée au coton démaquillant, réutilisable, lavable, ouais. Voilà, et c'est génial. Et en plus, surtout, il y a une marque d'ailleurs française, moi, j'ai pas le nom, que j'ai découvert dans notre boutique, la Oyat à Paris, notre boutique partenaire chez qui on est en vente en ce moment. Bref, ils sont hyper jolis, parce que j'en avais, mais des pas très beaux. Et là, cette marque en fait avec du velours, enfin, ils sont canons, donc en plus, c'est très joli dans ta salle de bain. Et aussi, j'étais une adepte des bouteilles d'eau en plastique. J'adorais avoir ma bouteille un peu partout avec moi. Et donc, ça, j'ai arrêté. Et donc, j'ai acheté un... Comment on appelle ça ?
Une gourde ?
Ouais, non, mais oui. Et tu sais, pour mettre chez toi, pour purifier l'eau du robinet.
Ah oui, un purificateur d'eau.
Un purificateur d'eau, voilà.
Donc, d'accord. Ça a été... Bon, super. Et quelles sont tes sources d'inspiration au quotidien ?
Les sources d'inspiration, alors ça continue pas mal à être le dressing de ma mère, parce que moi j'adore la mode des années, tu vois, 70, 80, toutes ces formes de décolleté hyper glamour, hyper féminin. Moi je suis un peu moins pour les trucs très loose. Aujourd'hui on est très, tu vois, on adore avoir des gros pulls, on est très dans le confort. Moi j'adore quand même avoir
le près du corps.
Ouais, le près du corps et surtout, ouais, des beaux décolletés. Enfin, mettre le corps de la femme, on a quand même des super corps et je trouve ça cool de le mettre bien en valeur, etc. Et voilà, et ensuite, tu vois, c'est un peu tout le temps. Ça peut être un tableau, ça peut être un tapis, ça peut être une nana dans la rue qui est habillée d'une certaine façon, ça peut être... Enfin, un peu tout, hein, je pense. À partir du moment où tu as les yeux ouverts, en fait, l'inspiration est un peu partout, finalement.
Ouais, super, merci pour ce partage. Je crois qu'il est temps qu'on passe au quiz. Est-ce que tu es prête ? Alors, je vais te donner donc une série de questions. Et l'idée, c'est que tu puisses répondre le plus spontanément possible, soit par la réponse A, soit par la réponse B. Et donc, il n'y a aucun jugement dans les réponses que tu pourras donner. Allez, on y va. Pour te rendre au boulot, tu es plutôt vélo ou voiture ?
Voiture.
Il n'y a pas de jugement.
Non, mais c'est parce que je suis une grosse flemmarde.
Si tu n'as rien dans ton frigo, tu es plutôt McDo ou Too Good To Go ?
McDo.
Pour flair.
Pas du tout mes réponses là.
Pour flair, t'es plutôt Black Friday ou Make Friday Green Again ?
Pour le coup, Make Friday Green Again, 1000%.
Pour faire des cadeaux, plutôt Emmaüs ou Amazon ?
Plutôt Emmaüs, pour le coup.
Ouais ?
Ouais, et en plus, tu trouves des super belles pépites, donc ouais.
Le lundi, t'es plutôt Steak Frites ou Veggie Monday ?
Steak Frites tous les jours de la semaine.
Et enfin, avant de t'endormir, plutôt Netflix ou un bon bouquin ?
En vrai, tout dépend. Là, un bon bouquin, c'est génial, mais la plupart du temps, c'est quand même Netflix.
Ouais, pour décompresser un peu en fin de journée.
Ouais, exactement.
Super. Bah, écoute, merci beaucoup Clémence pour avoir raconté ton histoire de flair, l'histoire des bodys, pour valoriser au quotidien le savoir-faire troyen. Et puis écoute, on te souhaite de beaux succès dans tous tes projets du moment.
Merci beaucoup Pauline.
Merci à toi, très belle journée.
Au revoir.
Au revoir.
Votre épisode communautaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à noter ce podcast avec une note 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté. Partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter. Je vous enverrai le prochain épisode par email. Vous pouvez vous rendre sur le blog www.communautaire-to2re.com pour retrouver les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.